France Inter, Amélie Perrier, le 6-9 de l'été.
Et à 8h39, c'est l'heure de la revue de presse avec Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Amélie, bonjour Thomas et bonjour à tous. Combien seront-elles ce dimanche à Ajaccio ? Combien de femmes et de jeunes filles viendront manifester ? À Bastia, le 21 juin, elles étaient 350. Derrière des banderoles qui disaient « Nous ne sommes pas vos objets sexuels, la tenue ne justifie rien » ou « Céder n'est pas consentir ». Un mouvement est né le mois dernier sur l'île, et pour le monde, ce mouvement, c'est la vague MeToo qui secoue la Corse. Enquête de Lorraine de Fouché. Tout a commencé début juin sur les réseaux sociaux, le week-end de la fête des mères, avec une déferlante de témoignages dans la lignée de ceux publiés aux États-Unis sous le hashtag « I was », qui, comme MeToo, invite les victimes de violences sexuelles à dire ce qui leur est arrivé en indiquant leur âge. C'est ainsi que Scarlett a tweeté « I was 13 ». Et c'était deux amis. Ne porte pas plainte, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout parce qu'ils ont entendu quelqu'un arriver. Je n'ai pas porté plainte. Dans la foulée, une jeune femme corse, installée à Paris, Laura Paoli Pandolfi, crée avec une amie le compte I was Corsica. Afin de relayer ces histoires, Balance ton porc n'avait jamais pris en Corse, dit-elle. Là, il y a près de 150 faits qui sortent, c'était horrible. Elle précise que toutes les histoires se ressemblent. Ce n'est jamais un inconnu dans un parking avec un couteau, mais toujours des mecs que les filles connaissent et qui les forcent. Anaïs Mattei, 22 ans, raconte avoir été forcée chez elle, alors qu'elle hurlait, forcée par un ami qui lui aurait dit « t'es qu'une salope, à cause de toi j'ai trompé ma copine ». Lina Marini, 18 ans, raconte qu'elle en avait 15 ans au moment des faits. Sur le port de Tonga, elle avait accepté un rendez-vous avec un garçon majeur, avec qui elle avait échangé sur Snapchat. Elle avait un peu bu, il l'a emmenée dans le noir et malgré ses refus répétés, il est passé à l'acte tout en la filmant tandis qu'un autre homme déboulait pour savoir s'il pouvait participer. Puis elle passera deux années à faire des cauchemars. Deux années de honte, d'échecs scolaires et de dépression avant de comprendre ce qu'elle avait vécu. C'était un viol. Ici aussi en Corse, confie-t-elle, là où tout le monde parle d'honneur, où on te dit que les femmes sont mieux traitées qu'ailleurs, ici aussi en Corse, il y a autant d'agressions sexuelles et de viols que sur le continent, mais le machisme local et le poids de la famille empêchent d'en parler. Sans tomber dans le cliché, on peut parler d'omerta, dit-elle.
Les événements semblent lui donner raison.
Oui, Carlina, Anaïs, Scarlett et bien d'autres ont, par message privé, tenté de croiser les identités de leurs agresseurs présumés pour voir s'il y aurait des récidivistes. Une centaine de noms a alors émergé et ces noms ont fuité et les garçons incriminés. Une cinquantaine d'entre eux ont été portés plainte pour diffamation. Quatre des jeunes femmes du mouvement I was Corsica ont alors été convoquées par la police. Ils ont fait ça pour nous faire taire, mais ça ne nous arrêtera pas, commente Anaïs. Océane, 17 ans, convoquée elle aussi, rapporte que des parents et certains des mis en cause sont venus en bas de chez elle pour la menacer. Tu vas voir ce qui va t'arriver si tu continues. Un compte Instagram anonyme a ensuite publié des images d'une jeune fille toute nue en prétendant que c'était elle. Quant à l'agresseur présumé de Lina, le garçon rencontré sur le port de Tonga, il a déjà requis les services d'une avocate, laquelle a une manière bien étrange de le défendre. C'est un jeune homme beau et charmant qui n'a pas besoin de violer une fille pour la séduire. On ne peut pas allumer un mec pendant toute une soirée et dire qu'après on n'a pas voulu. C'était un rapport consenti. Alors combien seront-elles ce dimanche à Ajaccio ? Selon Le Monde, elles espèrent être un millier.
On parle également de musique dans le journal.
C'était un extrait, très court extrait, de la Traviata. Une Traviata post-confinement présentée mercredi dernier au Teatro Real de Madrid. Alors que la plupart des opéras du monde ont préféré attendre l'automne, voire l'hiver, pour rouvrir leurs portes, le Colisée madrilène a choisi de prendre les devants avec une version adaptée de l'œuvre de Verdi, adaptée aux règles de distanciation physique. Pas de baisers, ni d'accolades pour Alfredo et Violetta, mais un gigantesque lit blanc sur lequel ils ne se touchent. Jamais, pas plus que nous, Amélie, on ne peut pas se toucher, nous respectons la distance, distance respectée également entre les instrumentistes, les violonistes, les altistes et les percussionnistes portent des masques, les trompettistes et autres vents disposent d'écrans en plexiglas, des règles sanitaires, qui d'ailleurs aujourd'hui font le bonheur de certains, en l'occurrence celles et ceux qui sont accros à la propreté.
Et c'est à lire dans Le Parisien, la revanche des maniaques.
Mais oui, la maniaquerie qui jusqu'alors était plutôt considérée comme un défaut, eh bien, selon un sondage que dévoile Le Journal aujourd'hui, 43% des Français la considéreraient comme une qualité. Conséquence de l'épidémie de Covid-19, analyse Ronan Chastelier, sociologue spécialiste de la consommation. L'épidémie, avec son gel hydroalcoolique et ses gestes barrières, a placé le maniaque sur un nouveau piédestal, dit-il. On a compris que son combat était peut-être justifié, la lutte contre le virus, la lutte du propre contre le sale, devenant finalement la lutte du bien contre le mal. Il est aussi question du coronavirus. À la une du journal, crise du Covid-19. Le rapport choc des pompiers, nous en parlions dans le journal de 8 heures, dans un document interne. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France dénonce la gestion de la pandémie par le ministère de la Santé, une gestion trop centralisée et inefficace, notamment du côté du SAMU. Les pompiers regrettent de ne pas avoir été davantage mis à contribution. Réponse cinglante du président de SAMU Urgence de France. On ne dit pas, on pompier, nous, comment éteindre le feu à Notre-Dame, sous-entendu. Chacun son métier.
Mais tous les métiers peuvent mener à la politique, Frédéric.
La preuve ce matin avec la Une de la Provence. Et ce titre, elle est là, et elle, c'est Michèle Rubirola, élue hier maire de Marseille, après un premier conseil municipal aussi houleux que la campagne. En page intérieure, on trouve le portrait de cette médecin militante écologiste de 63 ans qui, quand elle était adolescente, nous dit-on, a joué dans la première équipe féminine de l'OM et qui chante dans une chorale de gospel, une femme qui préfère souvent le nous au jeu, note Sylvain Pignol. Femme gaffeuse, parfois, écrit-il, avec une propension à éviter les situations de conflit, il faudra pourtant forcément en gérer en tant que maire de la deuxième ville de France, écrit-il. Mais elle-même précise que tout se fera en équipe. Lui aussi devra en gérer des conflits. Et pour l'heure, on ne connaît pas encore son équipe. Longue interview de Jean Castex, nouveau Premier ministre, dans le journal du dimanche. Il affirme vouloir s'attaquer rapidement au dossier sensible, celui de la réforme des retraites notamment. Même chose pour le Ségur de la Santé qu'il dit vouloir conclure dès la semaine prochaine. Deux mots pour résumer sa méthode, dialogue et rassemblement. Volonté de dialoguer, souci de rassembler. Mais il avertit qu'il ne croit pas au consensus mou. Pour le reste, il réfute le terme de collaborateur et assure mettre les bouchées doubles pour composer au plus vite son gouvernement. Enfin, quelques conseils de lecture pour vos vacances, Amélie. Et vous, chers auditeurs, formidable toujours la revue dessinée, avec une formidable enquête sur la trace des bourreaux de Bachar al-Assad. Formidable toujours la revue 21, avec une formidable enquête sur le travail des femmes qui y laissent souvent leur santé. Et puis salon, pour terminer, la sortie d'un nouveau magazine pour les jeunes. C'est l'éléphant junior, la culture générale pour les 9-13 ans, où l'on découvre notamment ce qui se passe dans la tête des chevaux. Je ne m'étais jamais posé la question. Eh bien, on apprend notamment que les chevaux ont une mémoire d'éléphant. Voilà une lecture qui nous permettra de passer un été apprenant.
Et de bonnes vacances à vous. Merci Frédéric Pommier.